Deutsche Welle. Pulsation.
Le concours de l'Eurovision de la chanson s'est soldé par une débâcle de l'Allemagne et une polémique entre la Russie et l'Ukraine qui l'a emporté. Nous en parlons dans quelques minutes avant de nous pencher sur le premier largage d'une bombe thermonucléaire dans notre coup de projecteur. Mais tout d'abord, réponse à la question « Qu'est-ce que l'homophobie ?» C'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti.
Le saviez-vous ?
Ce 17 mai, c'est la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie. Mais l'homophobie, c'est quoi ? À l'origine, il s'agit d'un mot apparu pour la première fois dans la langue anglaise en 1969, « homophobia ». Le terme désigne alors la peur qu'ont certains hommes hétérosexuels de passer pour des homosexuels. Dans « homophobia », le préfixe « homo » vient du grec « homoios », qui signifie « semblable », et non, comme on le pense trop souvent, du latin « homo », qui lui veut dire « homme ». Donc, au sens strict du terme, homophobie signifie la peur du semblable et non la peur de l'homosexuel. Quoi qu'il en soit, le terme désigne le rejet, le mépris et même la haine à l'encontre de personnes, de pratiques ou de représentations homosexuelles ou supposées l'être. L'homophobie se manifeste à travers des préjugés et une discrimination dans différents domaines comme l'emploi ou le logement. Mais elle peut aussi prendre des formes plus violentes comme le harcèlement et même le meurtre. Souvent, elle recourt à la condamnation à mort de l'homosexuel de manière institutionnalisée. À l'origine de l'homophobie, les experts voient plusieurs causes possibles. Les positions religieuses, dérives psychologiques et dans beaucoup de cas, selon les études psychanalytiques, elle provient d'une non-acceptation de sa propre bisexualité. De nombreux hommes voient leur côté féminin comme une menace, ce qui déclenche chez eux un réflexe de protection. Être homophobe leur permettrait donc de ne pas avoir à reconnaître une part d'eux-mêmes qu'ils n'acceptent pas. Cela expliquerait par ailleurs qu'il existe plus d'hommes que de femmes homophobes. Vous écoutez la Deutsche Welle, c'est Pulsation. Le concours de l'Eurovision de la chanson a eu lieu ce week-end en Suède. La compétition de chant la plus populaire de la planète s'est bien déroulée, mais le résultat final donne lieu à une petite polémique. De la perspective de l'Allemagne, l'aventure s'est soldée par une débâcle cinglante. Avec ce titre intitulé « Ghost », Jamie Lee Krivitz, jeune lycéenne de 17 ans, espérait remporter la victoire comme tous les participants. Et avant la finale, beaucoup de concurrents lui attestaient une certaine présence artistique, à l'instar d'Amir, le représentant de la France.
Même si elle est très jeune, elle a déjà un message. Et elle exprime ses convictions aussi dans sa façon de s'habiller. Elle ne porte sur elle rien qui provient d'un animal. Il se passe quelque chose de grand autour de cette fille et elle a une super voix et une belle chanson.
Et si elle ne porte rien qui provient d'un animal sur elle, elle ne mange non plus rien qui provient d'un animal. Mais voilà, si Amir peut chanter, sa sixième place au classement en témoigne. En revanche, il ne peut pas prédire l'avenir. Malgré ses louanges à l'encontre de Jamie Lee, la candidate allemande n'a finalement recueilli que 11 points et terminé lanterne rouge de la finale, 26e. Sur 26 participants. Jamie a certes gagné la dernière édition de The Voice of Germany, le télécrochet le plus populaire d'Allemagne. Sa fraîcheur, L'excentricité de ses tenues de scène et sa voix ont convaincu le public allemand. Mais celui-ci ne vote pas pour son propre candidat lors du concours de l'Eurovision. Et à l'étranger, force est de constater qu'elle n'a pas fait l'unanimité, loin s'en faut. D'aucuns pensent qu'elle a même payé l'impopularité de l'Allemagne en Europe, notamment dans les pays de l'Est, où l'on reproche à la chancelière Angela Merkel sa politique migratoire jugée trop permissive. La première place, elle aussi, donne lieu à une polémique. C'est avec cette chanson sur la déportation des Tatars de Crimée par l'Union soviétique que Jamala a remporté les suffrages lors de la 61e édition du concours de l'Eurovision. La jeune Ukrainienne, Tatar de 32 ans, a elle-même composé la musique et écrit le texte très personnel qui concerne ses arrière-grands-parents victimes de persécutions pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa prestation en anglais et en tatar, très authentique par rapport à beaucoup d'autres, et la profondeur de son sujet lui ont permis de convaincre. Elle en est consciente.
Quand on chante quelque chose de vrai, alors ça peut vraiment toucher les gens.
Or, le règlement stipule qu'il est interdit de présenter à l'Eurovision des chansons engagées. Le texte de Jamala est-il politique ? Certains, en tout cas, en sont persuadés. En premier lieu, Moscou, qui y voit une critique indirecte de l'annexion de la Crimée par la Russie. L'indignation des Russes ne serait peut-être pas aussi grande si leur représentant, Sergueï Lazarev, une véritable superstar dans le pays, n'avait pas été le favori absolu avant la compétition. Le russe Sergueï Lazarev avec « You are the only one » battu par l'ukrainienne Jamala. C'en est trop pour Moscou, qui crie au scandale et évoque une théorie du complot. Pourtant, sans l'Ukraine, cela n'aurait même pas suffi pour le titre, puisque Sergueï Lazarev doit se contenter de la troisième place derrière l'Australie, dont c'était la deuxième participation au concours auquel elle est invitée. Dami Im, australienne d'origine coréenne, a séduit le public avec Sound of Silence et elle est passée à deux doigts de la victoire. Ce qui aurait été à la fois une sensation et une petite catastrophe puisque traditionnellement le vainqueur abrite l'édition suivante. Or, pour organiser l'événement en Australie l'année prochaine, il aurait fallu changer les statuts du concours. Tout est bien qui finit bien donc, et au printemps prochain, l'Ukraine accueillera la compétition qui cette année a été retransmise pour la première fois aux États-Unis et en Chine et a rassemblé plus de 200 millions de téléspectateurs selon les organisateurs.
Coup de projecteur.
Le 20 mai 1956, il y a donc 70 ans, dans l'océan Pacifique, une bombe d'une puissance dévastatrice est larguée d'un avion porteur américain de type B-52. La charge explose sur l'île de Bikini. Aucune victime n'est à déplorer. En fait, il s'agissait d'un test militaire du premier largage d'une bombe H. Les bombes à hydrogène, dites thermonucléaires, développées dans le cadre de la course à l'armement entre les USA et l'URSS, seraient au minimum 1000 fois plus puissantes que Little Boy, la bombe atomique à fission nucléaire lâchée sur Hiroshima en 1945 avec les dégâts que l'on connaît, et qui a dégagé une énergie de 14 000 tonnes de TNT. La plus grosse bombe H de l'histoire a, elle, été testée par l'URSS. Tsar Bomba, c'était son nom, avait une puissance de 57 mégatonnes, soit l'équivalent de 57 millions de tonnes de TNT. De quoi détruire une bonne partie de la planète. On se quitte en musique avec un titre qui illustre notre coup de projecteur, le groupe américain B-52, du nom des avions largueurs de bombes dans Planète Claire. Merci de votre attention. Le podcast de cette émission est disponible comme d'habitude sur dw.com/français, rubrique podcast ou médiathèque. Excellente suite de programme sur la Deutsche Welle. Salut !